Dieron unos bloques aquí, monedas, so, el mismo no lo vamos a intentar con la maldita, hay que ir, chata joder. Dieron peter, encore une fois, nous te disons que nous avons besoin du secours de ta grâce et de la puissance de ton esprit pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta parole. Et nous voudrions être de ceux qui trouvent leur bonheur à lire cette parole, à l'écouter, à la comprendre, à la mettre en pratique. Tu nous dis bienheureux l'homme qui lit, bienheureux l'homme qui écoute, bienheureux l'homme qui comprend, bienheureux l'homme qui met en pratique cette parole. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous puissions, ayant saisi une vérité, nous mettre à l'aise à ce besoin. Amen.
Alors mes amis, en cette matinée du 11 août 1981, nous continuons notre étude sur la puissance de Dieu par l'Épître aux Romains. Et ce matin, nous avons à examiner le chapitre 12e que nous intitulons « La sainteté pratique ». Donc, dès aujourd'hui, avec le chapitre 12, nous entrons dans la deuxième partie de l'Épître, cette partie qui est essentiellement pratique, la mise en pratique des vérités doctrinales que l'apôtre nous a exposées. Mais j'ai compris ce matin qu'avant de nous plonger dans le détail de cette vie qui découle des compassions de Dieu, il serait bon que nous repassions ensemble l'enseignement reçu dans la première partie. Si vous vous en souvenez, au chapitre 1er, nous avons vu l'auteur de cet épître, Paul, qui nous décrit comment il a reçu son apostolat et sa mission d'annoncer l'évangile. Comment cet évangile lui a été confié et le grand désir qu'il a d'apporter cette bonne nouvelle à Rome, puisque cet évangile est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il nous dit que dans cet évangile, la justice de Dieu, la vraie justice de Dieu, en opposition à la justice humaine, elle nous est révélée par la foi et pour la foi. Cette justice qui apporte le salut à tous les hommes, aussi bien aux Juifs qu'aux Grecs, elle nous est révélée par la foi. Puis, Paul nous fait la description de l'état de l'homme devant Dieu. D'abord du païen, puis ensuite du juif, pour arriver à cette conclusion que tous les hommes sont coupables devant Dieu, et vous aviez bien compris qu'aux yeux de Dieu, tous sont perdus, sans espoir de s'en tirer par leurs efforts ou par leurs bonnes œuvres. C'est cela que Dieu dit. Et enfin, quand vous commencez à croire ce que Dieu dit, vous devenez juste. Pourquoi? Parce que dire que Dieu a raison, c'est être juste. C'est ça. De l'instant où vous dites « c'est toi qui as raison, Dieu », eh bien, vous rendez justice à Dieu. Le salut pour les hommes ne peut leur venir que d'un acte de la pure grâce de Dieu. Voilà ce qui nous est révélé dans le chapitre 3. Et ce salut qui vient de la grâce de Dieu, qui vient uniquement de la foi et non des œuvres, cette justification par la foi, Abraham l'a déjà connu. Ce n'est pas par les œuvres qu'il avait été sauvé, mais réellement par la foi. Et David lui-même, dans ses psaumes, nous montre que pour lui aussi, le salut est uniquement dans la grâce et par la foi, qui nous amène à reconnaître que Dieu a raison, et cela nous conduit à une vraie repentance et à l'acceptation de tout ce que Dieu nous dit au sujet de son Fils Jésus-Christ. C'est en son Fils Jésus-Christ que le salut a été réalisé par Dieu. Alors, ce si grand salut ne nous délivre pas seulement de la peine de nos péchés, mais nous affranchit aussi de la puissance du péché. Dieu ne veut pas seulement que nous soyons des pardonnés qui continuent à pécher toujours, sans cesse, mais des gens qui, ayant été pardonnés de leurs péchés, trouvent en celui qui les a expiés la force de ne plus retomber toujours dans les mêmes fautes. Il y a une délivrance de la puissance du péché. Et à cette délivrance, nous devons croire éperdument. Mais comment? Comment être affranchi de la puissance du péché? Par la mort du Seigneur Jésus. Et nous comprenons un second aspect de la mort de Jésus. Il n'est pas mort seulement pour nos péchés, mais il est mort pour nous donner la possibilité de mourir en lui, afin qu'aux yeux de Dieu, nous n'existions plus comme pécheurs, mais que nous connaissions uniquement la vie nouvelle en Jésus-Christ, la vie de ressuscité. C'est le chapitre 6 des Romains. Puis, l'apôtre veut que nous sachions que non seulement nous sommes libérés de la puissance du péché, affranchis de la puissance du péché, pouvant livrer nos membres comme instrument de justice à la volonté divine, mais il veut que nous enseigner quel a été le rôle de la loi, pour bien nous montrer que maintenant nous ne sommes plus sous la loi des hommes qui essayent d'accomplir la loi, mais en Jésus-Christ, nous sommes morts aussi à la loi. Et nous sommes maintenant dans un nouvel état de choses où c'est la grâce qui règne. Cette grâce qui est venue par Jésus-Christ alors que la loi est venue par Moïse. Mais bien sûr, la loi était sainte, juste et bonne. La loi était l'expression de la volonté divine. La loi était donnée pour être un frein à la corruption qui pouvait monter dans le monde. La loi empêchait quand même des hommes d'aller peut-être trop loin, mais la loi ne leur donnait pas la force de faire le bien, de s'établir dans le bien, d'accomplir le bien. De sorte que la loi ne nous donnait au fond que la connaissance des abîmes de notre cœur, la connaissance du péché qui était en nous, et nous faisait réaliser aussi l'impuissance totale que nous avions à faire la volonté de Dieu. Alors la mort du Christ nous est révélée comme étant donc notre propre mort qui met fin à notre vie passée, la vie du vieil homme. La résurrection du Christ est le début de notre vie nouvelle, déliée maintenant du joug de la loi, notre âme et notre conscience cessent d'être sous la malédiction. On connaît le bonheur de l'affranchissement, d'être enfin libre, de savoir que Dieu ne nous dit pas « fais ceci, fais cela », mais « accepte mon amour ». Et dans ce chapitre 7, donc un enseignement précis sur le rôle de la loi, sur sa valeur et sur ses limites, nous a été donné. Puis, nous avons eu, dans la fin de ce chapitre 7, la description d'un homme qui essayait de triompher de ses tendances par ses propres efforts. Et nous avons constaté combien cette lutte est déprimante, car il s'agit là du moi, qui s'efforce de mener le combat contre la chair. C'est ça, Romains 7. C'est le moi qui s'efforce de mener le combat contre la chair. Alors, c'est l'échec total qui nous conduit à nous écrier, misérable que je suis, qui puisque moi j'y arrive pas, qui me délivrera? Alors la réponse, elle nous est donnée au chapitre 8. C'est par le Saint-Esprit que le combat contre la chair sera mené. Comprenez-vous? Parce que nous ne pouvons pas mener ce combat. La victoire nous est assurée, mais uniquement par un autre, par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en nous, c'est lui qui mène le combat, et nous sommes assurés qu'il n'y a plus de condamnation pour le croyant, et qu'il n'y a plus de séparation. C'est le grand message du chapitre 8. Une fois né de nouveau, c'est l'Esprit en nous qui lutte contre la chair, et la chair contre l'Esprit. Alors, n'essayons pas de mener nous-mêmes le combat comme nous le faisions quand nous étions irrégénérés. Quand nous étions irrégénérés, mais que nous avions quand même la conscience que la loi était bonne, et que nous voulions essayer d'accomplir la loi, mais qu'est-ce qui nous arrivait? Nous remarquions qu'il y avait une puissance en nous, plus forte que nos bons désirs, et qui nous faisait chuter. Alors je dirais, on dit souvent que quelqu'un est dans Romains 7, mais vous êtes dans Romains 7, seulement quand vous voulez vous-même triompher du péché qui habite dans la chair, comprenez-vous? Alors vous vous placez dans Romains 7. Mais c'est pas votre position à vous. C'était votre condition avant votre nouvelle naissance, comprenez-vous? Mais ce n'est plus votre position maintenant. En Romains 8, nous voyons l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en nous. Ce chapitre reprend la description de la vie chrétienne, vie selon l'Esprit de Dieu qui habite en nous, vie de lutte, certes, mais d'une lutte menée par qui? Par l'Esprit, comme il l'est dit dans Galates. C'est le triomphe préparé par Dieu qui veut donner des frères à Jésus-Christ pour partager sa gloire. La vie de Jésus, c'est la vie de plénitude de l'Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et ne dites pas que la vie de Jésus, évidemment, puisqu'il était le Fils de Dieu, c'était une vie divine. Oui, mais dans un corps humain. De sorte que il n'a pas employé sa divinité pour marcher comme le Père voulait qu'il marche. Il nous a donné, en entrant dans les eaux du baptême, ce que nous aussi, nous devons faire, confesser notre misère, notre incapacité totale, et à ce moment-là, quand il sort des eaux du baptême, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit le Saint-Esprit descendre sur lui sous une forme corporelle. Et il nous enseigne par là que c'est uniquement par la vie d'en haut, par le Saint-Esprit, que nous pouvons accomplir notre course. Et c'est rempli du Saint-Esprit et qu'il agit. Je ne dis pas que vous avez cela au baptême par immersion, vous avez cela quand vous croyez au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit vous est donné, et alors à vous de le laisser vous remplir pour marcher en nouveauté de vie. Donc Dieu veut nous amener à la gloire de son Fils. Et ce dessein, on est sûr qu'il ne sera pas frustré, tout le suggère. Dans le chapitre 8, il y a l'aspiration de la création. Où que vous regardiez, il y a ce même désir dans la création de sortir de cette servitude dans laquelle elle a été assujettie. Il y a aussi les soupirs de nos cœurs qui sont régénérés, mais qui sont encore dans des corps de chair qui subissent les conséquences du péché. Et puis, il y a surtout la volonté de Dieu qui a tout ordonné pour cette fin. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien, pour nous amener à cette victoire totale, d'où cet hymne à l'amour dont rien à l'amour du Christ, de dont rien ne pourra nous séparer. C'est ainsi que finissait le chapitre 8. Alors, je dirais ceci, avec le chapitre 8, la démonstration est achevée. Au sujet du salut par la foi. La démonstration, elle est achevée à la fin du chapitre 8. Mais, parce que Paul n'écrit pas un traité, mais une lettre vivante, soudain, qu'est-ce qu'on voit dans son cœur, une fois qu'il a bien exposé tout cela, une immense tristesse qui l'envahit. Après, justement, ce cantique de joie de la fin du chapitre 8, nous le voyons tout à coup triste. Pourquoi? Parce que ce bonheur des croyants, son frère d'Israël ne le partage pas. Alors c'est une honte pour lui. Alors qu'il sait que pourtant, sont le peuple choisi, le peuple privilégié, le peuple auquel Dieu a fait ses promesses. C'est le début du chapitre 9. Et il se pose cette question, mais pourquoi donc les Juifs n'ont-ils pas embrassé l'Évangile? Cette bonne nouvelle qui a d'abord été prêchée par le Seigneur Jésus, puis ensuite par ses apôtres, d'abord à qui? Aux Juifs. Parce qu'avant d'aller vers les païens, les apôtres ont annoncé l'Évangile, selon l'ordre du Seigneur, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et seulement après, ça devait aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors on se pose une question, mais est-ce qu'il n'y a pas un échec au plan divin? Alors l'apôtre répond, mais non. Dieu avait choisi les Juifs par une pure faveur. Et puis maintenant, si c'était une pure faveur, il a le droit d'en choisir d'autres pour continuer son œuvre dans le monde. Et ce n'est pas une injustice de la part de Dieu. Parce que le peuple juif, dans son origine, a été choisi par pure grâce. Abraham était un païen. Souvenons-nous toujours de cela. Les origines du père d'Israël, c'est aussi le paganisme. Abraham a été sorti par la faveur de Dieu de l'idolâtrie. Alors, il y a dans la conduite du peuple d'Israël un mystère. Et aussi dans la conduite de Dieu à l'égard de ce peuple. Oui, il y a un mystère. Mais quand vous voyez un mystère dans l'Écriture, c'est toujours une vérité qui était cachée avant, mais qui nous a été révélée. Un mystère dans le Nouveau Testament, c'est une vérité qui était cachée dans l'Ancien, mais qui nous est maintenant révélée. Cependant, on peut toujours dire qu'un mystère reste quand même un mystère. On ne peut pas l'expliquer, mais quand même, il y a une lumière, il y a une révélation sur le mystère de Dieu. Dieu ne mesure pas ses grâces, ni à l'origine d'aucun homme, ni au mérite des œuvres. Qu'est-ce que vous devez bien souligner ? Dieu étant souverain, il manifeste sa souveraineté absolue dans les dispensations de sa miséricorde. Ça, c'est le chapitre 9. Et Dieu nous montre, par le témoignage de Paul, que nul n'est un vrai Israélite par droit de naissance. Alors, les promesses de Dieu seraient-elles annulées? Non, dit-il. Ce n'est pas la descendance d'Abraham, selon la chair, qui constitue les vrais Israélites. Parce que si c'était la descendance d'Abraham, selon la chair, il y aurait aussi Ismaël, vous vous souvenez. Il faut que tout cela vous revienne en mémoire. Ceux-là seuls qui descendent de lui, selon la promesse, qui fut l'objet de sa foi, comme le prouve l'histoire de la naissance d'Isaac. Voilà ceux qui doivent être sauvés. L'histoire de la naissance d'Ésaü et de Jacob prouve également que les dons de Dieu ne dépendent ni du droit d'aînesse, ni des œuvres de l'homme, mais de la souveraine grâce de Dieu de son libre choix. Dieu est souverain dans l'exercice de sa miséricorde. Y aurait-il de l'injustice en Dieu? Non, car Dieu a déclaré à Moïse la souveraineté de sa miséricorde. D'où il suit qu'elle ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme. Dieu est Dieu, et je voudrais que si simplement vous restez, parce que vous ne discuterez plus, les chapitres 9, 10 et 11 des Romains nous posent toujours des questions parce que c'est une explication d'un mystère. Et quand on veut expliquer un mystère, même si on est l'apôtre Paul, et qu'on parle par l'esprit, bien, on n'arrive pas à avoir toute clarté. Et il faut rester dans l'adoration. Ce qui doit vous convaincre, et il n'y aurait jamais eu le chapitre 9, 10 et 11 des Romains, si les hommes avaient compris que Dieu était Dieu. Et que il a le droit de faire ce qu'il veut. Nous sommes ses créatures. Le potier, quand il a fait un vase, est-ce que le vase a le droit de lui dire « Tu n'as pas le droit de me détruire ?» Si tout à coup ce vase ne plaît pas au potier, il le détruit et il refait un autre vase. Mais c'est le droit du potier. Est-ce que l'argile va prétendre avoir des droits sur le potier? Oui ou non? Nous sommes l'argile. Et puis Dieu est le potier. Laissons-le faire le vase et qui lui plaît. Et s'il ne lui plaît pas, eh bien, laissons-le recommencer son travail. Dieu est Dieu. Et c'est cette souveraineté de Dieu que nous devons admettre une fois pour toutes. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il fait miséricorde à qui il veut, et il est juste. Et puis il endurcit qui il veut. Alors vous avez l'exemple effrayant de l'endurcissement de qui? Du Pharaon, qui prouve la même vérité. Alors il y a la question qui nous vient immédiatement, mais pourquoi donc Dieu se plaint-il de l'incrédulité? Alors, on répondra, mais plutôt qui es-tu, ô homme, pour plaider contre Dieu par la voie de la justice? Il a sur toi le droit absolu du Créateur sur la créature, comme nous le disions tout à l'heure, le potier sur le vase de terre. De même qu'il appelle par pure grâce des âmes à la foi, Dieu peut, sans injustice, tolérer patiemment des pécheurs pour manifester sa miséricorde envers ceux qu'il appelle juifs ou gentils. Mais donc, le Pharaon est un exemple même de la patience de Dieu, qui ne l'a pas anéanti immédiatement. Aujourd'hui, c'est un cri qui monte tellement souvent vers le ciel. Au fond, si Dieu était juste, pourquoi est-ce qu'il permettrait ces iniquités? Pourquoi est-ce qu'il permet ceci et qu'il permet cela? Mais pour quelle raison? Parce qu'il donne à tous, même aux méchants, la possibilité de se convertir. Il parle une fois, deux fois, trois fois. Il vous donne la possibilité d'ouvrir votre cœur. Si vous ne voulez pas l'ouvrir, si vous ne voulez pas connaître le Seigneur, c'est-à-dire le connaître dans ce sens, de ne pas simplement avoir une information sur le Seigneur, mais si vous ne voulez pas entrer en relation avec lui, parce que c'est ça le sens du mot connaître dans la Bible, être en relation avec lui, être en union avec lui, être identifié à lui. Si vous refusez cette connaissance-là, qui est la vie éternelle, c'est ici la vie éternelle qu'il te connaisse, seul vrai Dieu. De cette connaissance qui est une relation, une union, une identification, et non pas une simple information sur Dieu. Être informé que Dieu existe, en être même sûr, ça ne sauve personne. Parce que le diable et les démons y croient. Et même eux frissonnent devant lui. Tandis qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent qu'ils croient en Dieu, qui ne mettent pas en doute son existence, mais qui ne croient pas Dieu. C'est-à-dire, il ne croit pas sa parole. Et qu'est-ce que sa parole dit? Que vous êtes perdu. Si vous n'êtes pas né de nouveau, malgré votre religion, malgré vos bonnes œuvres, malgré vos bonnes intentions, malgré tout ce que vous pensez de vous-même, eh bien, vous êtes perdu. Ça, je suis obligé de vous le dire, et je vous le dis sans ménagement. C'est l'apôtre qui nous l'a dit ce matin. Que nous soyons présents ou que nous soyons absents, nous vous disons sans ménagement aucun, ce qui ne veut pas dire sans compassion, hein, parce que notre cœur est brisé quand nous devons dire cela. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes perdu malgré tous les temps à Mahanaïm. Ça, croyez-le bien. Nous ne nous faisons pas d'illusions, et c'est cela notre angoisse. Est-ce que, en vous invitant à ces rencontres, est-ce que nous ne faisons pas qu'augmenter votre responsabilité? Parce que vous ne pourrez plus jamais dire que vous ne saviez pas. Vous ne pourrez jamais dire que c'était trop compliqué. Parce que si vous me dites maintenant que c'était trop compliqué, je vous résume le tout en ceci. Dieu vous dit, vous êtes perdu. Vous êtes incapable de vous en sorti. Est-ce que vous allez le croire? Mais moi, je ne suis pas si perdu que ça. Je suis bien, je ne suis pas perdu, je n'ai pas laissé tout. Alors, tu dis que Dieu est un menteur. Dieu qui vous connaît à fond, dit, sans se faire aucune illusion sur vous, vous êtes perdu. Et moi, j'ai un bon fond. Votre bon fond. Creusez le fond, puis vous verrez tout au fond. Votre bon fond. Vous n'avez pas vu tout ce qui grouille en dessous de votre bon fond? Vous êtes perdu, dit Dieu. Alors, vous êtes désespéré? Non. Si vous le croyez que vous êtes perdu, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vous ai donné un sauveur. Voilà alors qui devient une réalité. Et il vous présente son Fils. Et il vous dit que les perfections de son Fils, lorsqu'il a vécu sur la terre, lui ont donné une telle satisfaction que cette vie que Jésus a eue, Dieu l'a acceptée pour qu'elle paye le rachat de toutes vos vies. Mais pour payer ce rachat, qu'est-ce qu'il fallait? Que cette vie vous soit donnée. Et c'est pourquoi vous n'êtes sauvés que par la mort du Seigneur Jésus. Si vous ne voulez pas accepter la mort de Jésus, vous êtes perdus. Vous n'êtes sauvés que par la mort de Jésus. La vie de Jésus ne vous sauve pas. La vie de Jésus vous révèle que vous n'avez pas cette vie de nature. Hein. Est-ce que quand vous êtes né, depuis votre naissance, est-ce que vous avez manifesté que vous aviez la vie de Jésus? Non. La vie de Jésus était extérieure à vous. On a commencé par vous parler de Jésus, puis vous avez tous parlé du petit Jésus. Et il y en a qui en sont restés encore avec le petit Jésus. Mais c'est toujours une vie extérieure. On va le voir dans la crèche, à Noël. C'est le petit Jésus, c'est la fête du petit Jésus. Il a été petit Jésus, mais il n'est pas resté le petit Jésus. Il a grandi, il a parlé, et dans la plénitude de sa force, il est mort. Et c'est dans cette mort que vous avez le salut. Parce que par cette mort, il payait la dette de vos péchés, mais non seulement cela, il donnait à tous ceux qui veulent le suivre la possibilité de s'en sortir. On ne s'en sort qu'en mourant avec Jésus. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui perdra sa vie, la trouvera à cause de moi, dit le Seigneur. Voilà. Et quand vous croyez cela, le témoignage que Dieu rend de vous et le témoignage qu'il rend de son Fils, de la foi en ce double témoignage, dépend votre salut. Vous êtes sauvés quand vous croyez cela. Vous n'êtes sauvés que par la grâce. La grâce de Dieu, par la foi, de ce Dieu qui est tellement bon qu'il peut tolérer patiemment des pécheurs pour manifester aussi sa miséricorde envers ceux qu'il appelle juifs ou gentils. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Parce que si son châtiment tombait immédiatement sur nous, comme il aurait pu tomber immédiatement sur le Pharaon, si nous devions être châtiés immédiatement, est-ce que vous seriez ici? Moi, en tout cas, je n'y serais pas. Dieu a eu de la patience à mon égard. Il m'a fait le rencontrer il y a 50 ans. Alors, que dirons-nous donc après cette démonstration, cette souveraineté de Dieu en sa grâce et en sa justice, qui était déjà révélée par tous les prophètes, preuve tirée d'Osée et d'Ésaïe à la fin de ce chapitre 9. Que dirons-nous donc après cette démonstration? Que si la cause de la rejection du salut est dans la souveraineté de Dieu, elle n'est pas moins dans la liberté morale de l'homme. Car des pauvres païens qui n'avaient aucune prétention à la justice devant Dieu, ont trouvé la justice par la foi. Tandis qu'Israël, dans son orgueilleuse prétention de propre justice, a méprisé la justice de la foi et s'est heurté donc contre cette pierre d'achoppement. Non, parce que vous vous dites, moi je peux quand même, je me justifierai par les œuvres de la loi et on verra bien ce que je suis. Eh bien, voilà ce que Israël, dans son orgueil, prétendait. On peut s'en sortir nous-mêmes. Et c'était l'échec. Ils se sont heurtés contre cette pierre d'achoppement. Parce qu'être sauvé par la foi, ça ne viendra pas de nous. Ça nous scandalise. On voudrait faire quelque chose. Et regardez ça, le jeune homme riche, qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Que faut-il que je fasse pour avoir la vie éternelle? Vous êtes encore trop riche. Quand on dit ça, que faut-il que je fasse? C'est qu'on n'a pas encore connu notre pauvreté. Comprenez-vous? Quand vous prétendez faire quelque chose, vous êtes le jeune homme riche. Et vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. Arrive à la pauvreté et tu auras besoin de moi. Et tu me suivras. Et c'est dans ce chemin, en me suivant, que tu trouveras la vie éternelle. Alors, dans cet endurcissement d'Israël, s'accomplissait une prophétie d'Ésaïe que le croyant réalise dans un sens opposé. Celui qui croit, eh bien, a ce qu'Ésaïe avait promis, la guérison dans les blessures du Messie, mais celui qui refuse n'a plus que la condamnation. Et si on refuse, on est endurci. Dieu endurcit ceux qui se moquent de lui en refusant. Alors, le chapitre 10, Israël est tombé par sa propre justice et son incrédulité. Paul reconnaît bien, au début de ce chapitre, que son peuple a pu avoir du zèle, mais un zèle sans connaissance. Et il y a bien des gens dans certaines religions qui essayent de faire des bonnes œuvres. Je ne dis pas qu'ils font mal, mais ils n'ont pas la vraie connaissance. Parce qu'ils ne se justifieront pas par leurs bonnes œuvres. Car leur zèle, chez les Juifs, ignorait la vraie justice de Dieu, que Moïse avait déjà signalé, montrant que le salut n'était pas dans les grands efforts, qui ira au ciel, qui ira dans les profondeurs. Le salut, Moïse l'avait dit, il était tout près de chacun, dans leur bouche et dans leur cœur. Cette parole de foi qui dit « Dieu a raison ». C'est vrai ce que Dieu dit. Alors, ne me dites pas que vous n'avez pas cette possibilité de dire votre « oui » à Dieu. Vous aurez la bouche fermée devant Dieu. Vous ne pourrez pas invoquer les circonstances parce que, justement, Dieu a tout fait pour rendre son salut à la portée de tous. Tu n'as pas besoin de sortir d'ici, tu n'as pas besoin de sortir de ta chambre pour être sauvé. Tu n'as qu'à lui dire ce oui. Il n'y a pas même besoin d'un prédicateur pour être sauvé. Le Seigneur peut se révéler à notre âme. Il y en a tant qui nous racontent leur conversion, tout à coup ils ont été saisis. Parce que Dieu aime à se révéler. Cette parole est donc toute proche. Croire du cœur que Jésus est le Seigneur, et alors le confesser avec sa bouche, le confesser avec amour, voilà pour tous le moyen de salut. L'Écriture le déclare, et Dieu est riche dans sa grâce pour l'accorder à tous ceux qui l'invoquent. Alors, le salut a été annoncé, mais Israël l'a rejeté. Vous vous souvenez de la prédication d'Étienne. Comment les Juifs ont-ils réagi à la prédication d'Étienne? On avait vraiment voulu nous rôtir. Hein? Mais enfin, peut-être qu'on peut s'éloigner un peu du feu. Mais nous allons terminer cette récapitulation, et puis nous allons nous lever tout à l'heure, et avant que nous passions dans le chapitre 12. Je souligne simplement ce qui est dit maintenant au chapitre 11. Ce salut donc a été annoncé, mais Israël l'a rejeté. Et il faut que le salut soit annoncé à tous, car pour invoquer le Seigneur, comme on le voit au chapitre 10, il faut croire en lui, et pour croire en lui, il faut avoir entendu sa voix dans les messagers de la bonne nouvelle, que saluait déjà le prophète Ésaïe qui disait qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc c'était dit que cette bonne nouvelle serait annoncée. Et la foi, souligne l'apôtre, vient donc de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, diffusons la parole de Dieu, faisons connaître la parole de Dieu, et nous donnons au monde, nous donnons aux âmes la possibilité d'avoir la foi, de croire ce que Dieu a dit. Mais hélas, depuis Moïse jusqu'à Ésaïe, depuis Ésaïe, jusqu'au temps du Christ, jusqu'au jour de l'apôtre, peu ont cru à la parole, et je dirais, jusqu'à nos jours, peu y croient. Donc la vocation des païens, elle-même, avait été annoncée dans l'Ancien Testament, mais le peuple de Dieu a persévéré, a persisté dans sa rébellion. Alors la conclusion, eh bien vous l'avez au chapitre 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple. Première preuve, la chute d'Israël n'a pas été universelle, puisque les élus ont été sauvés. L'Église primitive est composée presque uniquement de juifs, donc il y a des juifs qui ont été sauvés. Les apôtres étaient tous juifs, les convertis de la Pentecôte étaient tous des juifs. Donc il y a un reste d'Israël qui a été sauvé. Même au temps d'Élie, on a souligné que 7000 hommes, alors qu'Élie se croyait tout seul fidèle, 7000 hommes n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. De sorte que la mise à l'écart d'Israël n'a pas eu lieu pour toujours. C'est un mystère de la miséricorde divine que les croyants païens ne doivent pas ignorer afin d'être gardés de l'orgueil. L'endurcissement partiel d'Israël ne sera point permanent. Ce peuple sera sauvé selon l'alliance éternelle de Dieu. Ils sont aimés de Dieu parce qu'ils sont gentils. Ils sont aimés à cause de qui? À cause de leur père. Voulez-vous que vos enfants soient aimés de Dieu? Quel est le meilleur moyen? C'est d'aimer le Seigneur. Aimer le Seigneur, Vivez selon la volonté du Seigneur et vos enfants en recevront une bénédiction. Dieu les aime à cause de vous aussi, à cause de leur Père. Ils sont aimés de Dieu à cause de leur Père. Est-ce que ça ne nous dit rien, ça? Voilà ce que peut être votre vie dans le Seigneur. Si vous avez une vie dans le Seigneur, vous savez que vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, jusqu'à 1000 générations, bénéficieront de votre foi. Ils devront être sauvés par la foi, mais ils seront mis au bénéfice de votre foi. Tandis que si vous vivez selon la chair, selon vos désirs, eh bien, qu'est-ce qui arrivera à la première, à la deuxième, à la troisième génération, si ce n'est pas même vous qui avez été frappés, c'est eux qui en subiront les conséquences. Ne venez pas me dire que Dieu est injuste, non. Mais c'est vous qui êtes injuste de persévérer dans votre endurcissement, alors que vous savez que vous ruinez votre famille, que vous ruinez vos descendants, et vous êtes responsable. Et il y aura même, une fois que vous serez dans votre cercueil, même bien capitonné, alors que vous aurez été embaumé avec tout ce qu'on fait au Québec, pour les morts, eh bien, il y aura après vous, quand vous ne serez plus que des ossements desséchés sous la terre, des personnes qui mouliront votre mémoire parce qu'ils souffriront peut-être dans leur chair, dans leur corps, de séquelles dont vous étiez responsable par l'abus des choses légitimes que vous avez cru pouvoir faire et bien d'autres choses encore qui n'étaient pas légitimes. Comme Dieu a eu pitié des païens dans leur rébellion, il aura aussi pitié des juifs qui sont encore rebelles. Et ainsi les uns et les autres, perdus dans le péché, seront l'objet de la miséricorde. Et vous vous souviendrez de cette image de l'olivier greffé, que je trouve absolument sensationnelle, parce qu'on n'a jamais vu qu'on greffe un olivier sauvage sur un olivier franc. C'est le contraire que l'on fait. Eh bien, c'est cela que Paul se permet de prendre un contresens pour montrer vraiment que les voies de Dieu, c'est contre notre bon sens à nous. C'est contre notre raison, de sorte que si vous voulez avancer dans la vie spirituelle simplement en vous basant sur votre pur raisonnement, sur votre logique, vous n'arriverez jamais. Parce que Dieu, il se moque bien de notre logique. Il a sa logique à nous. Et puisque nous, quand il nous a donné la sagesse, nous avons corrompu la sagesse qu'il nous a donnée, eh bien Dieu, lui, il fait des folies pour remettre tout en ordre. Et c'est par la folie de la prédication de la croix, qui paraît une folie pour les païens, un scandale pour les juifs, que Dieu offre son salut. Les choses qui nous semblent être impossibles sont possibles à Dieu. Et vous retombez sur vos pieds avec tout ça, parce que c'est la même chose qui est arrivée à Abraham, c'est quand il a été dans l'impossibilité de voir s'accomplir la promesse, que la promesse s'est accomplie. C'est quand vous croyez que c'est impossible que Dieu va rendre la chose. Vous le croyez? Vous le croyez? Vous le croyez? Vous le croyez? Eh bien, alléluia. Alors d'avance, l'apôtre chante la louange. Ô voix merveilleuse de Dieu, c'est ce que nous avons vu dimanche, ô profondeur des richesses de la sagesse. Que ces voix sont insondable. De lui, par lui, pour lui, sont toutes choses. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, j'ai eu à cœur, d'une façon très nette, et de refaire ce résumé, parce que je sais qu'en le faisant, ça vous permet de mieux entrer dans ses voies. Nous allons maintenant nous lever, avoir un moment de détente. Alors maintenant, mes amis, nous envisageons la deuxième partie. Si je suis revenu sur cette première partie, c'est que je ne veux pas construire sans m'assurer encore de la solidité des fondations. C'est pourquoi nous avons repris tout cela. Maintenant, le chapitre 12e. Eh bien, nous entrons dans une partie pratique, mais beaucoup plus facile, mais qui découle de ces vérités. Versets 1 à 8, nous avons donc la consécration des chrétiens et de tous leurs dons. Nous sommes appelés à offrir, à nous offrir nous-mêmes à Dieu en un saint sacrifice. Ses compassions nous y obligent et c'est le seul culte intelligent, le seul culte raisonnable qu'il agrée tous les cultes auxquels nous assistons et qui ne sont pas pénétrés de cet esprit. Si nous ne sommes pas nous-mêmes un culte, tout cela est vain. Et quand il en est ainsi, nous n'appartenons plus au monde, mais à la volonté de Dieu. Nous sommes exhortés à être humbles, car en Christ, nous formons un seul corps, et d'autres membres ont des fonctions non moins importantes. Que tous les dons divers de ses membres soient modestement et fidèlement employé pour le bien de tous. Puis, à partir du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre, nous voyons l'amour en ses diverses applications, un amour qui doit être sans hypocrisie, un amour qui doit nous rendre capables de bénir même quand on est persécuté, un amour qui nous apprend à rendre le bien pour le mal. Hein? Alors, maintenant, nous lisons ce chapitre. Je ne pense pas qu'il y ait des difficultés, de sorte que ce soit assez rapide. Je vous exhorte donc, maintenant que Paul a pu ouvrir son cœur sur cette situation des Juifs, il reprend donc comme si nous partions du chapitre 8, puisque rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, parce que chapitre 9, 10 et 11 étaient une parenthèse, nous reprenons le fil au chapitre 12, le fil du chapitre 8. Je vous exhorte donc, puisqu'il n'y a plus de condamnation, puisqu'il n'y a plus de séparation, par les compassions de Dieu. Maintenant, on les connaît, les compassions de Dieu. Elles sont allées jusqu'où? La mort de son Fils, en ce que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Si vous êtes sensible aux compassions de Dieu, eh bien, quelle sera votre réponse? Car il y a une réponse. Si quelqu'un a payé vos dettes, qu'est-ce que vous lui dites? Merci. Et ensuite, qu'est-ce que vous essayez de lui témoigner? De la reconnaissance, une vie de reconnaissance. Alors, en réponse à ces compassions de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, on rejoint aussi le chapitre 6, offrant nos corps. C'est pas une vérité nouvelle, ça. On nous a dit qu'il fallait offrir nos membres. Et nos corps, c'est nos corps dans leur totalité, mais aussi dans leur détail. Le corps est formé des membres, c'est dans le corps aussi que nous avons nos sens. Eh bien, livrons nos sens à qui? À Satan? Pour qu'il les utilise? Alors, ça sera les passions. Mais si nous livrons notre corps, tout ce que nous avons, à Dieu, eh bien Dieu l'agrée. C'est quelque chose de merveilleux. Là, il n'est plus question de livrer nos péchés. Nous avons déposé nos péchés à la croix. Maintenant, nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs, mais comme des hommes et des femmes dont les corps peuvent servir à quoi ? À la gloire de Dieu. Glorifiez donc le Seigneur dans vos corps qui sont le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui est la partie visible, de votre être, cette partie que le monde voit. Il voit vos regards, il entend vos paroles, il sait ce que vous écoutez, il voit comment vous agissez avec vos mains, où vous vous déplacez avec vos pieds. Ne pensez pas que le monde ne vous observe pas, mais non seulement le monde vous observe, mais du haut du ciel, il y a un écran, et puis sans cesse, eh bien, la télévision céleste enregistre. Puis il y a un magnétophone immense au ciel, de sorte que toutes vos conversations sont enregistrées. Tout ce que vous dites, toutes vos paroles, puis il y a pire que ça. Il y a encore, là-haut, pour vous enregistrer ce que les hommes essayent de trouver maintenant, c'est quoi? La pensée, détecteur de pensée. Toutes vos pensées sont là. Et quand nous comparaîtrons devant le Seigneur, tout cela va marcher. Et puis vous allez voir toutes vos pensées exposées. Vous allez entendre toutes vos paroles. Et vous savez, c'est pas drôle quand on s'écoute parler, quand on voit qu'on a dit bien des bêtises, hein. Je me souviens un jour, on avait mis un magnétophone sous la table pendant le repas, sans que personne le sache. Et puis après, quand on l'a fait marcher, ben je vous promets que c'était pas drôle. Et il y en a qui rougissaient de voir simplement comment on répond à son voisin, ou comment on répond à sa mère, ou à son père. Tout à coup, on s'est entendu. C'est pas moi quand même qui dis ça. Mais oui, tu l'as dit. C'est enregistré. C'est pas ta voix? Oui. Mais prenez un peu conscience de ce qui va se passer là. C'est écrit dans l'Écriture. C'est pas moi qui le dis. Que Dieu nous jugera selon nos pensées aussi. Que tout sera manifesté. Alors vous voyez, c'est pas simplement l'œuvre extérieure qui sera manifestée, mais l'intention, le mobile, ce qui nous a fait agir, ce qui était secret, sera connu. Alors c'est bien le moment que nous livrions nos corps pour que Dieu en fasse des instruments de justice et que ce qui soit enregistré là-haut soit des paroles de grâce, assaisonnées de sel, des paroles qui ont apporté à notre prochain une consolation, une bénédiction, des paroles de vérité, mais aussi des paroles d'amour. Et c'est un sacrifice vivant. Vous voyez, le Seigneur ne vous demande pas de faire des sacrifices. C'est très drôle, les chrétiens nous parlent toujours de sacrifice. Qu'est-ce qu'il devrait être? Un sacrifice. C'est clair. Il devrait être un sacrifice. Alors, si on est un sacrifice, on n'a plus besoin de faire des sacrifices. Soyez sur l'autel le sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce sera là votre culte raisonnable, ce qui est vraiment raisonnable pour Dieu. Ce culte en esprit et en vérité. Et verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce siècle où moi je suis désolé de voir combien, même parmi les évangéliques, parmi les chrétiens, on regarde à ce qui se fait dans ce monde pour s'inspirer, pour savoir ce que nous devons faire, nous, dans nos églises, pour que ça réussisse, pour qu'on attire des gens. Le monde fait ceci, bien nous on va introduire ces méthodes-là, toujours en vue d'amener des âmes au Christ. C'est faux, archi faux. Ne vous conformez pas à ce qui se passe dans le monde, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Mais c'est cela. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est se retirer du mal. Or, ce que vous voyez dans le monde, c'est le mal. De sorte que se retirer du mal, c'est se replacer devant Dieu. S'il s'était tenu devant moi, dans mon conseil secret, ils auraient su ce qu'il fallait dire, est-il dit au sujet des prophètes. Alors, nous serons renouvelés dans notre intelligence et nous discernerons. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, on dit toujours que c'est dur à discerner, que c'est un problème. Ce n'est pas vrai. C'est dur pour ceux qui marchent selon le monde. Mais si vous marchez dans la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui vous sera quotidiennement révélé, heure après heure, instant après instant. Et si vous n'avez pas la lumière, vous n'avancez pas. Vous attendez que la lumière vous soit donnée. Et Dieu n'est jamais en retard. Il agit, il intervient et il nous permet de discerner sa volonté. Et alors on est toujours d'accord pour témoigner que cette volonté était bonne, agréable, parce que maintenant il nous est agréable de savoir que c'est ce que Dieu désire. Il m'est agréable que ça te soit agréable, ô mon Dieu, parce que je suis un avec toi, parce que je suis uni à toi. Et puis, elle est parfaite, cette volonté, parce que mon Père Céleste, il est parfait. Et qui dit une chose, elle arrive si Dieu ne l'a pas commandée, de sorte que sa volonté doit être parfaite. Et je dois en être convaincu, donc plus de discussion. C'est quelque chose de lamentable d'entendre des chrétiens qui remettent en cause la justice de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce divine. Verset 3. « Par la grâce qui m'a été donnée, » donc vous voyez, Paul ne dit pas « je suis arrivé », il dit « que j'ai », c'est par la grâce. Hein. « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Mais c'est triste. On vous enseigne dans le monde qu'il faut arriver à avoir une bonne opinion de vous. Il faut avoir la confiance en vous-même. C'est ça qu'on vous enseigne dans le monde. Eh bien, le Seigneur vous dit que quand vous êtes en lui, c'est pas ça qui compte. Justement, quand vous êtes en lui, vous savez que vous n'êtes rien. Et que lui est tout. Et que ce qui va vous donner du bonheur, c'est de ne pas avoir une trop haute opinion de vous-même. Alors quand on dira du mal de vous, quand on dira que vous ne valez rien, ça ne vous touchera pas. Parce que vous me direz, mais il y a longtemps que je le sais. Vous doutez de mes capacités. Et si vous l'aviez encore? Ma capacité à moi, elle vient de Dieu. Ma capacité, dit saint Paul, elle vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Alors, quand on me dit, est-ce que vous êtes en forme? Non, je suis sans forme. Mais il peut être ma forme. Hein? Il peut être ma forme. C'est lui. Mais tout le temps, on vient avec cette chair, cette chair, cette chair, cette chair. Hein? Jusqu'à ce que ça nous sorte par les narines. Toujours mettre la chair en avant. La chair, c'est la chair. Puis vous croyez que ma chair s'est améliorée? Vous croyez qu'après 50 ans, je me crois meilleur? Je me vois pire que lorsque j'avais 14 ans. Je me vois pire. Et c'est là le progrès. Non. Parce que ce progrès vous détourne de vous-même. Puis vous vous dites, ah mais oui, mais lui alors, regardez-le. Ma vie, c'est lui. Et c'est dans la foi. C'est dans la foi. Alors on n'a plus une haute pensée de soi. Alors on nous fait tomber de moins haut, de toute façon. Mais il faut qu'on revête des sentiments modestes. Moi, j'aime pas ces vêtements modestes. J'aime bien qu'on me trouve beau, qu'on trouve que je suis bien dans ma peau. Non. Revêtez-vous de sentiments modestes. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On n'a pas besoin d'avoir des vêtements taillés exactement pareils, hein. Mais Dieu a donné à l'un ceci, à l'autre cela. Alors soyons heureux de ce que Dieu a donné aux autres. Et puis n'envions personne. Ce que Dieu m'a donné est bon. Il m'a fait quelque chose sur mesure. Il vous a fait quelque chose sur mesure. Dès que vous voulez porter le vêtement d'un autre, c'est de la démesure. Ça colle pas. Il y a comme un pli, comme disait Fernand Reynaud. Il y a comme un pli. Alors, portez le vêtement qui vous convient, qui a été taillé pour vous. Je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui aiment porter les vêtements des autres. Oh, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous passer quelque chose au camp, si ça rend service. Hein. Mais il y en a qui ont un certain plaisir de porter le vêtement de quelqu'un d'autre. C'est très drôle, ça. Ça en dit assez long. Portez votre propre vêtement. Il y aurait bien d'autres choses à dire, évidemment, sur cette mesure de foi. C'est un mot grec, l'analogie de la foi. Une vérité, par exemple, elle doit toujours être mesurée d'après l'analogie de la foi, c'est-à-dire qu'elle doit correspondre à tout ce qui est dit dans l'Écriture. Verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, alors, prenez bien conscience de cela maintenant, nous sommes des membres du corps, le corps de Christ est un, il en est la tête, mais nous sommes les membres du corps. Et nous n'avons pas tous la même fonction, comme les membres de notre corps n'ont pas tous la même fonction. Maintenant, en ce moment-là, je tiens ma Bible de la main gauche. Mais est-ce que je n'ai pas besoin de ma main droite à certains autres moments? Alors, ce n'est pas parce que maintenant ma main gauche est utilisée que je dis à ma main droite, je n'ai pas besoin de toi. J'en aurai besoin tout à l'heure parce que ma main est fatiguée. Alors, je prends maintenant ma main droite. Mais nous avons des fonctions différentes, pas la même, et nous ne nous jalousons pas. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Si je suis membre du corps de Christ, qu'est-ce que vous êtes pour moi? Mes membres. Et je suis pour vous un de vos membres. Vous voyez qu'on ne devrait jamais chicaner. Parce qu'on se fait du mal à soi-même. Si vous réalisez que vous êtes dans le corps, nous avons tous besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, je ne m'isole pas, et vous avez besoin de moi. Et je dis ça sans prétention. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire selon, justement ce que je disais tout à l'heure, selon un contrôle que l'on fait de toute l'Écriture. Je n'ai pas le droit de sortir une vérité de son contexte. Je dois la contrôler par l'ensemble des Écritures pour que ce soit vrai. Sinon, c'est très possible que ce soit une théorie sectaire que je vais sortir. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, eh bien, nous l'avons vu dans cette offrande. Et je dois vous dire que maintenant, elle s'élève à $875. On a retrouvé encore dans la boîte des petits. On ne sait pas quand ils sont arrivés, mais enfin, quand on a compté la somme globale, ça fait $875. Au fur et à mesure que la parole agissait, eh bien, les porte-monnaies semblent s'être ouverts. Et ça, c'est pour la parole diffusée, non seulement dans la province, mais dans le monde entier. Que celui qui exhorte, que celui qui donne le fasse avec libéralité, vous voyez, il y a une manière de donner. Que celui qui préside le fasse avec zèle, présider, que ce soit une réunion d'organisation, une réunion biblique, peu importe, nous devons tout faire, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout, de cœur comme pour le Seigneur. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec tristesse. Je suis obligé de pratiquer la miséricorde. Je ne peux pas faire autrement. Ben ouais, alors, je pratiquerai la miséricorde. Non. Si on s'est vu misérable un jour, et qu'on a vu la miséricorde venir à nous, la miséricorde de Dieu, eh bien on pratique aussi la miséricorde avec joie. Car quand on a connu la miséricorde de Dieu, on a eu de la joie, eh bien apportons aussi la miséricorde à ceux qui nous entourent. Et ensuite alors, le verset 9, vous avez le programme, un programme que j'aime beaucoup, programme d'action. Que la charité, c'est-à-dire l'amour, littéralement, soit sans hypocrisie. Ah, Dieu a en horreur l'hypocrisie. Soyons vrais. Ayez le mal en horreur. Mais on ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. Alors il faut qu'on ait une révélation de ce qu'est le mal. Maintenant, on a tellement mélangé les choses qu'on appelle le bien mal et le mal bien. Parce qu'on est influencé par les doctrines du siècle. Il se passe ça dans le monde, on dit ça dans le monde, et eh bien on est influencé nous aussi. Et on arrive à avoir les mêmes conceptions que le monde. C'est faux. Attachez-vous fortement au bien. Pourquoi est-ce que vous s'attachez fortement au bien? Parce qu'on risque d'être arraché du bien. Alors il faut s'attacher fortement au bien. Comme on doit attacher fortement le canot quand il y a une espèce de tempête, de la vague, parce qu'il pourrait être arraché. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Il n'est pas dit par passion, mais par amour fraternel. Ça donne un tout autre sens à notre affection. Soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Vous devriez méditer là-dessus. Nous devrions méditer là-dessus. Est-ce que vous avez eu des prévenances au camp? Moi, j'ai souffert dans un camp. Il y en a d'autres qui y étaient aussi. Parce que beaucoup manquaient de ces prévenances réciproques. Et c'est pénible de voir la grossièreté des gens. Quand on se dit chrétien et qu'on devient grossier vis-à-vis de son prochain, soit dans nos paroles, soit dans nos actions, ou soit à table, usez de prévenance réciproque, regardez si quelqu'un manque de quelque chose pour lui passer le plat, ben c'est ça, usez de prévenance réciproque. On peut voir aussi quel est notre christianisme, même quand on nous observe à table. Du reste, Jésus l'a fait. Il se mettait dans un coin, puis il regardait d'abord comment les gens s'asseyaient autour de la table, comment ils cherchaient les premières places, puis après il a fait ses réflexions. Puis il nous a dit comment nous devons procéder quand nous sommes invités. Et il a toujours dit des choses qui étaient peut-être un petit peu blessantes pour ses disciples, mais qui étaient pour leur éviter des peines plus grandes encore. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit, parce que tout se fait dans notre esprit. Et si notre esprit est uni à l'esprit de Dieu, il y aura une ferveur en nous. Servez le Seigneur. Mais notre service extérieur pour le Seigneur sera le reflet de notre vie intérieure. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, je n'ai pas besoin de commenter. Pourvoyez aux besoins des saints. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous connaissez que quelqu'un manque du nécessaire, si cela est en votre pouvoir, aidez cette personne. Mais aidez-la en n'oubliant pas le conseil du Seigneur, que ta main gauche ne sache pas que c'est ta droite. Parce que sans ça, vous obligez cette personne. Il faut qu'elle puisse se dire, ça me vient du Seigneur. Comprenez-vous? Soyez assez humble pour aider, mais sans que ça se sache. Parce que alors, si ça se sait, vous avez déjà votre récompense, puis vous avez gêné la personne. Mais si ça ne se sait pas, eh bien, ça se saura là-haut. Parce que là-haut, il ne fera parler que de ce qui n'était pas su. Oui? Oui, le don de la libéralité, il y en a qui l'ont peut-être plus fortement que d'autres, mais je ne pense pas que à une personne qui serait dans la pauvreté, le Seigneur demanderait, lui donnerait cette exhortation. Mais cette exhortation est certainement pour quelqu'un qui a des moyens. Parce que Dieu ne demande pas à celui qui n'a pas, mais il demande à celui qui a. Alors chacun de nous nous pouvons prendre cela. Mais regardez qu'une femme qui n'avait pas la veuve a pourtant mis dans l'offrande tout ce qu'elle avait pour vivre. Et le Seigneur a dit qu'elle avait mis plus que les riches qui donnaient de leur superflu, tandis que cette personne avait donné de son indigence. Donc, nous pouvons tous prendre quelque chose, mais nous devons pourvoir aux besoins des saints. Et voyez-vous, quand on sait ce que des gens pauvres savent donner, on a quelquefois honte pour les riches. Exercer l'hospitalité. L'hospitalité, c'est un ministère. Et comment devons-nous exercer l'hospitalité? Oh, encore ces gens qui nous tombent dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? Exercer l'hospitalité sans murmure. Parce que, à votre insu, vous aurez peut-être logé des anges. Quelquefois, c'est un ange étranger, mais enfin, peu importe. Et ça, ça se peut. Mais dites-vous encore que même si vous avez logé un ange étranger, le Seigneur en a peut-être besoin plus tard. Le Seigneur aura besoin d'un ânon. Un âne, n'est-ce pas? Mais écoutez, je suis un homme, et je sais très bien ce qui peut se passer dans notre cœur. J'ai un cœur humain comme les autres. Alors, allons plus loin. Bénissez ceux qui vous persécutent. C'est beau, ça. Parce qu'on n'a pas d'amertume comme ça. Ils ont persécuté le Seigneur, ils peuvent bien me persécuter, c'est dans le programme. Le Seigneur m'a averti depuis longtemps. On est seulement étonné de ne pas l'être encore. Mais ne maudissez pas. Est-ce qu'il vous arrive de maudire? Ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Est-ce que ça vous arrive? De frémir de joie quand vous entendez une bonne nouvelle, que quelqu'un est content, qu'il a reçu quelque chose. Est-ce que ça vous fait de la joie? Quand on entend dire qu'un homme a acheté une nouvelle machine à laver la vaisselle pour sa femme. Qu'est-ce que vous dites? Le mien, il pourrait bien en faire autant. Et puis, vous ne vous réjouissez pas du tout pour votre amie, la sœur, qui en a reçu de son mari. Eh bien, réjouissez-vous déjà de ce qu'elle en a et vous verriez que le vôtre de mari, eh bien, il ne mettrait pas longtemps avant de vous leur donner. Si vous avez vu, vous réjouir vraiment de la joie de votre ami. Mais si vous avez vu avec une longue figure, puis quand vous lui demandez, quand il vous a demandé pourquoi tu fais longue figure, oh ben oui, ben tu sais, mon amie là, elle m'a dit que son mari avait acheté une machine à laver. C'est moderne. Enfin, je ne sais pas, c'est une machine à laver, ça peut être autre chose. Mais réjouissez-vous de ce qui réjouit les autres. Ça nous fait du bien, savoir que quelqu'un est heureux. Alors nous sommes aussi heureux. Mais si quelqu'un est dans la peine, ça nous attriste. Nous pleurons aussi avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Mais pour avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir du contact les uns avec les autres. Et puis, ensuite, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attiré par ce qui est humble. Ça, c'est un verset que mon père m'a inculqué. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Quelle est notre sagesse devant tout ce que nous ignorons? Alors on voit notre prochain supérieur à soi-même, puis on apprend de lui. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, parce que ce n'est pas toujours possible, soyez en paix avec tous les hommes. Je ne veux pas avoir d'ennemis, moi. Je ne peux pas forcer les gens de m'aimer. Mais je sais une chose, le proverbe me l'a dit. Quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Proverbe chapitre 16. C'est quelque chose de merveilleux. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de vos ennemis. Le Seigneur s'en charge. Ce qu'il vous demande, c'est de plaire, c'est de lui plaire. Quand les voix d'un homme plaisent à l'Éternel, il met ses ennemis même en paix avec lui. Un jour ou l'autre, ils viennent nous demander pardon et nous dire, mais j'avais pas compris. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, c'est lui qui fera tout cela. Mais si ton ennemi a faim, ben voilà une belle occasion. Coupe-lui les vivres. Donne-lui à manger dans la nouvelle traduction. S'il a soif, ferme le robinet. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Vous voulez amasser des charbons ardents sur la tête des autres? Ça leur brûle un petit peu. Eh bien, agissez de cette manière. Et voilà qu'ils commenceront d'être réchauffés. Eux qui avaient la tête si froide. Hein? Ils auront des charbons ardents. Leurs pensées seront transformées. Leurs froides pensées deviendront des pensées chaleureuses. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Par notre propre force, par l'esprit qui est en nous. Voilà le chapitre 12. Mes amis, est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est évident que nous ne faisons qu'effleurer, parce que si on entre dans tous les détails, on n'arriverait pas. Alors, quand vous en êtes là à un verset où il y a plusieurs choses qui vous sont demandées, alors vous étudiez depuis le verset 6. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous est accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors, qu'est-ce que c'est que le don de prophétie? Que dit l'Écriture? C'est pas qu'est-ce que pense M. Racine ou qu'est-ce que toi tu penses. Que dit l'Écriture? Alors, sondez les Écritures, cherchant où il est parlé du don de prophétie. 1 Corinthiens 12, et en particulier 1 Corinthiens 14. Mais dans Corinthiens 12, c'est un des dons de l'esprit, des manifestations de l'esprit, mais dans Corinthiens 14, nous avons une explication. Verset 3. Celui qui prophétise, au contraire celui qui parle en langue, parle aux hommes. Il les édifie, les exhorte et les console. Le prophète, dans l'Ancien Testament, avant qu'il y ait les écrits inspirés, c'était la bouche de l'Éternel. Il recevait dans son cœur une parole et il devait la transmettre. Le prophète n'était pas nécessairement un homme qui annonçait l'avenir, et dans le Nouveau Testament non plus. Le prophète est un homme qui vit en contact avec Dieu et qui reçoit ses messages de Dieu. Il se tient dans la présence de Dieu. Il est à l'écoute du Seigneur qui lui donne une parole. Et il est à l'écoute du Seigneur pour le peuple, pour l'édification du peuple. Et son message, vous pouvez le contrôler, son message doit être toujours composé de trois éléments. Ce message doit apporter à l'auditeur une édification, c'est-à-dire il doit vous bâtir intérieurement. Il apporte une exhortation, vous devez sentir que ça vous dit quelque chose qui vous corrige, et puis il vous apporte aussi une consolation. Parce que nous sommes dans un monde où la tristesse règne et où nous avons besoin d'être consolés. Alors, si vous avez ce don-là, eh bien, exercez votre prophétie, votre don de prophétie. Mais selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire que tout ce qui est dit, que que ce soit édification, exhortation ou consolation, doit être conforme à tout ce que dit l'Écriture. Tu comprends? C'est ça, le don de prophétie. Que celui qui est appelé au ministère, hein, il y en a différents de ministères, différents ministères, mais quel que soit ton ministère, ce sera peut-être un ministère pastoral. Qu'est-ce que c'est qu'un pasteur? C'est un berger, hein, qui s'occupe du troupeau. Alors, le troupeau est composé de brebis, et il y a différentes brebis, des brebis qui sont perdues, qu'il faut chercher, des brebis qui sont égarées, qu'il faut ramener, des brebis qui sont blessées, qu'il faut panser, et des brebis malades, qu'il faut tuer. Il faut guérir. Mais évidemment, il y a des bergers qui sont débouchés. Et alors, les brebis, c'est plus facile de les tuer que de les soigner. Alors, si j'ai un ministère, si c'est le ministère pastoral, je dois l'exercer selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vois dans Ézéchiel comment un berger doit agir. Tu comprends? Je dois faire mon ministère selon les Écritures, contrôlé par les Écritures. Et puis, si j'ai un ministère d'enseignement, qui est peut-être différent de celui du prophète, parce que le prophète, il exhorte, il édifie, il console. Donc, le ministère d'enseignement, c'est plutôt le ministère du docteur, qui expose alors des vérités biblique, eh bien qu'il s'attache à son enseignement. Par exemple, un homme qui est docteur, ben, il fera peut-être très bien dans une école biblique. Alors, c'est bien. Mais s'il vient peut-être, s'il veut dépasser sa mesure, ça peut aller, là, pour certains intellectuels, d'entendre ce message, cette exposition, très structuré, tout ce que vous voulez, alors c'est très bien. Mais s'il vient au milieu d'un groupe qui n'est pas préparé à un enseignement de ce genre, eh bien, ça ne sera pas trop au-dessus des têtes. Alors, réjouissons-nous qu'il y ait des docteurs. Mais il est dit qu'il n'y en ait pas beaucoup, qu'il n'y ait pas beaucoup de docteurs parmi vous. Parce que c'est aussi une tâche très solennelle d'apporter vraiment la doctrine pure. Maintenant, que celui qui exhorte, ben, s'exerce à l'exhortation. Mais vous savez, j'ai rencontré un homme qui, je lui ai demandé, pourquoi est-ce que tu n'exhortes jamais? Il m'a dit, oh, je ne peux pas. J'ai mieux faire des réunions où je dépeins les vérités. Pourquoi? Parce que si on exhorte, on est dans le coup. Parce que si vous exhortez sur un point ou sur un autre, les autres vous regardent et disent, mais lui, comment est-ce qu'il vit? Il nous dit qu'il faut faire cela. Il ne s'exhorte pas lui-même. Dans sa vie privée, c'est tout le contraire. Et vous savez, il y a des femmes de pasteurs, des femmes de serviteurs de Dieu. Hein. C'est des saints. Quand elles doivent entendre leur mari prêcher, puis qu'elles savent comment ils se conduisent à la maison. Je vous promets que c'est vrai. Il y en a une qui m'a dit, je ne peux plus l'entendre. Je le hais dans les réunions. Alors vous comprenez comment elle peut s'abandonner dans la chambre à coucher. Quand on en arrive là. Oui, mais c'est ça. Vous n'avez pas une vie de famille et puis une vie de prêcheur, de prédicateur. C'est ça qui est faux. Vous devez être le même partout. Parce que sans ça, vous avez un masque. Hein? Alors, c'est cela, tu comprends, il faut être sérieux, tu as un ministère. Et alors, fais-le, mais fais-le convenablement. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Donnez-moi un homme qui, dans l'Écriture, n'a pas fait son ministère avec libéralité, qui était pourtant trésorier. Judas, bien sûr. Judas, Dieu lui avait confié la bourse.